Bonjour à tous. C'est aussi une très grande joie pour moi de pouvoir porter la parole dans cette église qui est très chère à mon cœur, parce que je l'ai connue quand j'étais un tout jeune chrétien. Je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Et nous allons lire les 10 premiers versets. Jean chapitre 3, premier verset. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit : « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire ? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël, et tu ne sais pas ces choses. Nous avons lu la parole de Dieu. Prions. Seigneur Tout-Puissant, ta parole nous dit que sans ton esprit, nous ne sommes pas capables de comprendre ta parole, Seigneur. Seigneur, puisse ton esprit, Seigneur, aujourd'hui, ouvrir le cœur de chacun, afin que nous recevions cette parole et qu'elle porte en nous du fruit. Je te prie au Saint-Nom de ton Fils. Amen. Nous nous trouvons au début du ministère de Jésus. Quelque temps avant, Jésus a fait à Cana le premier miracle qui a été rapporté dans l'évangile de Jean en transformant l'eau en vin. Ensuite, il s'est rendu à la fête de Pâques à Jérusalem, il a encore fait des miracles. Et c'est dans ce contexte qu'un homme nommé Nicodème, intrigué par ces miracles, vient rendre visite à Jésus un soir. Qui est ce Nicodème ? Qui est-il ? Le texte nous dit d'abord qu'il est un pharisien. Les pharisiens, c'était un petit groupe de juifs. Ils étaient environ 6000, c'était des gens qui étaient particulièrement zélés dans la pratique de la religion juive, il s'attachait au respect de la loi dans ses moindres détails. Et par exemple, leur zèle pour la loi était tel que s'ils avaient dans leur jardin de la menthe ou du cumin, ces petites plantes qu'on utilise pour assaisonner les salades, eh bien même sur les récoltes qu'ils faisaient sur ces petites plantes, ils allaient en réserver un dixième pour le temple, comme la loi le disait, ce qu'on appelle la dîme. On sait quelles furent les relations de Jésus avec les pharisiens. Elles ne furent pas bonnes. Jésus condamna la sécheresse de leur cœur et le formalisme de leur religion. Tant et si bien que ce sont eux qui le firent mourir. Mais Jésus ne condamnait pas le zèle pour la loi. Et lui-même nous a dit qu'il était venu accomplir la loi en totalité. Nicodème est un homme qui est bien disposé envers Jésus. Il l'appelle Rabbi, c'est-à-dire maître. Et il va même jusqu'à lui dire « Tu es un docteur venu de Dieu ?» On est très loin des autres pharisiens qui firent mourir Jésus. D'ailleurs, Nicodème, jamais on voit Nicodème se mêler aux pharisiens pour faire du mal à Jésus. Quelques chapitres plus loin dans l'évangile de Jean, alors que les pharisiens envoient des huissiers pour emprisonner Jésus, lui dit ceci « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Nicodème était un homme qui était très versé dans la connaissance de la Bible. Au verset 10, Jésus dit qu'il est le docteur d'Israël. Il est donc un enseignant, mais pas n'importe lequel. C'est l'enseignant le plus important parmi les religieux juifs. Nicodème, nous dit la parole, est un chef parmi les juifs. Il est membre de ce groupe qu'on appelait le Sanhédrin, qui était un peu une sorte de parlement ou de sénat, qui était donc un groupe d'anciens d'Israël qui était chargé de gouverner le pays. Donc c'est un homme important qui est digne de respect par la hauteur de ses fonctions. Nicodème est un homme très attaché au commandement de Dieu, c'est un grand savant de la Bible, c'est un homme qui est sincère, qui est respectable, qui est respecté, et qui plus est, qui admirait Jésus. Beaucoup de chrétiens aimeraient répondre à ce signalement. Et pourtant, il manque quelque chose à Nicodème. Est-ce qu'il en est conscient ? Est-ce qu'il est venu voir Jésus parce qu'il a une question brûlante dans son cœur ? On ne le sait pas parce que Jésus ne lui laisse pas le temps de poser cette question. Mais ce qui est évident, c'est que Jésus sait ce dont Nicodème a besoin. Et c'est pourquoi il interrompt tout de suite son discours et il lui dit ceci, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. La suite du texte nous montre que Nicodème n'est pas né de nouveau. C'est ce dont parle Jésus et nous verrons ce que ça veut dire. Nicodème n'est pas né de nouveau. Au verset 7, Jésus lui dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». En substance, donc, le message de Jésus à Nicodème, c'est le suivant. « Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Sinon, tu ne verras pas le royaume de Dieu. » Nicodème, c'est un homme bien, c'est un homme respectable, un homme religieux, un homme qui connaît la Bible, qui admire Jésus. Et pour tout ce qu'on sait de lui, il est droit et sincère. Et j'insiste là-dessus, ce n'est pas un méchant homme comme les autres pharisiens qui livrèrent Jésus. Et de nos jours, il passerait pour un bon chrétien, certainement. Mais pourtant, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu ? Le royaume de Dieu, on peut le voir en Colossiens 1,13, je vais le lire pour vous. L'apôtre Paul parle à des chrétiens et il leur dit « Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Le frère a cité ce verset ce matin. « Le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. » Le royaume de Dieu, ce n'est pas un royaume physique. C'est le règne de Dieu dans le cœur des hommes. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu dans le cœur des hommes. Ceux qui sont dans ce royaume, nous dit le texte, ont la rédemption. C'est un mot un peu technique qui veut dire payer une dette. Jésus a payé la dette de leurs péchés. Leurs péchés sont pardonnés, ils sont sauvés de la colère de Dieu envers le péché. Dieu ne les condamnera pas à cause de leurs péchés. Mais ceux qui ne sont pas dans ce royaume, nous dit le texte, sont sous la puissance des ténèbres. Les ténèbres, c'est l'obscurité. Dans les ténèbres, on ne voit rien, on est comme aveugle. Il ne s'agit pas de ténèbres physiques, mais de ténèbres spirituelles. La parole nous dit que Dieu est lumière, que Jésus-Christ est la vérité, et les ténèbres, c'est tout ce qui s'oppose à la vérité. Dans le même chapitre de Jean, un peu plus loin, Jésus dit, au verset 19, que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Les ténèbres, c'est le domaine du péché. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, malgré toutes ses qualités, malgré son amitié pour Jésus, Nicodème n'a pas la rédemption. Il n'est pas pardonné des péchés, il est dans les ténèbres. Malgré sa connaissance de l'Ancien Testament, il est dans l'obscurité, il ne connaît pas Dieu. Il est complètement aveugle sur le plan spirituel. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et pourquoi en est-il ainsi ? Parce que, dit Jésus, il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire être né de nouveau ? Et nous allons passer le temps qui nous reste à répondre à cette question. Cette nouvelle naissance dont Nicodème a besoin, chers amis, nous en avons tous besoin également. Et je vous demande ce matin, alors que vous écoutez ce message, de vous poser cette question en vous-même. Suis-je né de nouveau ? Chacun d'entre vous, suis-je né de nouveau ? Je ne vous demande pas si vous êtes baptisé, si vous venez à l'église tous les dimanches, si vous lisez votre Bible même tous les jours, mais seulement ceci, est-ce que vous êtes né de nouveau ? Et le titre de mon message, reprenant les paroles de Jésus, sera le suivant. Il faut que vous naissiez de nouveau. Pourquoi devons-nous naître de nouveau ? Pourquoi devons-nous naître de nouveau, naître une deuxième fois ? Nous devons naître une deuxième fois parce que nous sommes nés une première fois spirituellement morts. Spirituellement morts. Lorsque nous sommes nés la première fois, nous étions bien vivants, sur le plan physique, mais sans vie sur le plan spirituel. Même si un petit bébé est l'être le plus attendrissant qu'il existe, très vite, cette mort spirituelle se manifeste dans son comportement. dès le plus jeune âge, par toutes sortes d'attitudes de rébellion, de méchanceté, d'animosité, de mensonge, de vol, d'orgueil. Et qui dans cette salle pourrait dire que ceci ne décrit pas ce qu'il a été au moins un temps dans son existence? Et en grandissant, d'autres péchés se rajoutent, tels que l'immoralité sexuelle. Mais plus que tout cela encore, nous tous, que nous soyons nés de nouveau, que nous ne le soyons pas encore, nous avons été dans notre vie caractérisés par un désintérêt profond pour la personne de Dieu avant cette nouvelle naissance, voire une hostilité envers Dieu, cet être auquel rien n'échappe et qui connaît tout de la noirceur de notre âme. Il y avait un grand philosophe français qui s'appelle Jean-Paul Sartre, qui était un homme, un athée parmi les athées, et qui disait qu'il ne supportait pas le regard de Dieu. Pourtant, cet homme ne croyait pas en Dieu, mais il ne supportait pas le regard de Dieu sur sa vie, parce qu'il savait au fond de lui-même que Dieu voit tout. Dans sa deuxième lettre aux chrétiens de la ville d'Éphèse, Paul parle de la vie qui était la leur avant qu'ils deviennent chrétiens. Et il dit ceci: « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Plus loin, il dit: « Vous marchiez selon l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. » Et là, il parle de Satan. On marchait selon Satan. Et il rajoute encore: « Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. » Ce n'est pas que les chrétiens d'Éphèse étaient pires que les autres personnes, ils étaient comme les autres, comme tous les hommes, des enfants de colère. Mais voilà qu'un changement radical se produit parmi ces chrétiens. Un changement radical s'est produit. Et Paul continue ainsi, et il dit: « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. » Ces Éphésiens étaient morts sur le plan spirituel. Et Dieu leur a donné une nouvelle vie. Avec Jésus-Christ, nous dit le texte. C'est la nouvelle naissance. Je vous demande d'ouvrir vos Bibles dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 36. On va regarder une autre description de la nouvelle naissance qui se trouve donc dans ce livre qui a été écrit environ 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Ézéchiel au chapitre 36. On va regarder les versets 25 à 27. Ézéchiel 36, verset 25. « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. » Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Regardez le verset 26. Dieu parle d'un cœur de pierre. Nous avons cette expression en français. Avoir un cœur de pierre, ça veut dire être insensible aux autres, n'est-ce pas? La pierre est dure, elle est froide, elle est insensible, elle est sans vie. Récemment, on a annoncé que le professeur Cabrol est mort. Et en France, c'était même en Europe, le premier homme à avoir fait des transplantations cardiaques. Des transplantations cardiaques. Il ouvrait la cage thoracique de ses patients qui étaient proches de mourir. Il enlevait ce cœur qui était fichu. Et il le remplaçait par un cœur en bon état et la personne vivait. C'est une image de ce que Dieu fait dans la nouvelle naissance, sur le plan spirituel. Dieu procède à une opération chirurgicale spirituelle. Il enlève ce cœur de pierre qui est mort et qui est bon à rien et qui est opposé à Dieu. Il le remplace par un cœur de chair vivant, sensible et qui bat et qui palpite pour les choses qui concernent Dieu. Ce vieux cœur malade pompait la malice, l'égoïsme et la haine de Dieu. Et Dieu l'a remplacé par un cœur nouveau qui pompe la vie, l'amour pour Dieu, pour ses commandements et l'amour pour les autres. En effet, la nouvelle naissance produit un changement radical. La nouvelle naissance, ce n'est pas un ravalement de façade, ce n'est pas une amélioration. Au contraire, la façade reste la même. La personne n'est pas changée à l'extérieur, mais son être intérieur est totalement transformé. Son être intérieur est transformé. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance entraîne de nouveaux désirs, de nouvelles affections, de nouvelles priorités, de nouvelles passions, de nouveaux rêves. L'apôtre Paul utilise une expression dans la deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens. Je vais lire pour vous, c'est au chapitre 5. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Une nouvelle créature, c'est-à-dire une nouvelle création, une nouvelle naissance. Toutes choses sont devenues nouvelles. Vous retrouverez plusieurs fois un autre mot pour la nouvelle naissance dans la Bible, c'est le mot « régénérer ». Ça veut dire quoi, régénérer ? Ré, ça veut dire en français de nouveau. Et générer, c'est le même mot qu'il y a dans Genèse, c'est la création. Régénérer, c'est une nouvelle Genèse, une nouvelle création. Et voilà, dans le passage que nous avons lu, la parole nous dit que dans la personne régénérée, tout a changé. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul en est un parfait exemple. Souvent, l'apôtre Paul, il dit d'ailleurs, soyez mes imitateurs, il est notre exemple parce que c'était un chrétien pécheur, mais totalement dévoué au Seigneur. L'apôtre Paul, c'est un parfait exemple de la nouvelle naissance. Lui aussi, il était pharisien, comme Nicodème, mais il avait conçu une haine pour les chrétiens qui était incroyable, au point qu'il les persécutait et qu'il participait même à leur lapidation. Et dans son zèle contre Jésus-Christ, il avait obtenu d'être envoyé dans la ville de Damas, en Syrie, pour aller chercher des chrétiens et les faire emprisonner. Mais sur la route de Damas, il rencontre réellement Jésus-Christ en personne. Et Jésus lui parle et lui demande pourquoi il le persécute. Et Paul est complètement bouleversé par cette rencontre, par cette expérience. Il devient chrétien. Il se fait baptiser. Et voilà ce qui est dit de cet homme qui, a peu de temps, persécutait les chrétiens. Voilà ce qui est dit de Paul. Aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. La nouvelle naissance est un virage à 180 degrés. Est-ce que vous avez, dans votre vie, eu un virage à 180 degrés sur le plan spirituel? Quand Jésus fut crucifié, il était entouré de deux criminels. Il est dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27, verset 44, il est dit « les brigands », au pluriel, donc il s'agit des deux brigands, puisqu'il n'y en avait que deux, « les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière que les autres ». Mais si vous regardez l'évangile de Luc, le récit de la même crucifixion, on se rend compte, on apprend une chose en plus, c'est que l'un des deux brigands, une fois sur la croix, se met à changer complètement d'attitude envers Jésus. Alors que l'autre brigand continue à insulter Jésus, lui, il dit non, il n'a rien fait de mal. Il demande même à Jésus de se souvenir de lui quand il viendra dans son règne. Il croit même que Jésus est le roi qui va revenir. Il croit à la seconde venue de Christ. C'est un changement radical. Il est passé de l'insulte à la louange. Et Jésus lui répond, je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et que dire de Zachée ? Cet homme, c'était un collecteur d'impôts corrompu. Il passait son temps à voler les autres en leur demandant à payer plus d'impôts que ce qui était dû réellement et garder la différence pour lui. Et Jésus vient visiter sa ville, il descend dans sa maison, et voici ce que lui dit Zachée. « Seigneur, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Devenir chrétien, ce n'est pas une chose anodine. Ce n'est pas une petite chose qu'on rajoute à une vie. C'est une transformation profonde. La nouvelle naissance, j'ai entendu dire que par un prédicateur, la nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu dans l'âme d'un homme. La nouvelle naissance, c'est la vie de Dieu dans l'âme d'un homme. On ne reçoit pas la vie de Dieu dans son âme sans qu'il se produise un changement en profondeur. Ce changement, il est radical et c'est aussi un changement qui est instantané. L'analogie même de la nouvelle naissance prouve cette instantanéité. Lors de la première naissance, heureusement, pour nos mamans, que notre première naissance n'a pas duré pendant des mois, ou même pendant des jours. Et je vous invite à vous méfier de discours très flous sur la conversion. On ne devient pas chrétien sur des années. On le devient en un court instant. Avant la nouvelle naissance, il peut y avoir des événements qui nous préparent. des expériences qui nous préparent à la nouvelle naissance. Beaucoup de chrétiens peuvent témoigner qu'ils sont nés de nouveau après des périodes difficiles dans leur vie. Ces épreuves sont comme la charrue qui laboure la terre et qui la prépare à recevoir la semence. Et après la nouvelle naissance, la personne va passer sa vie à changer. Si vous prenez un chrétien tout juste né de nouveau et un chrétien qui a 10 ans de vie chrétienne, ils ne sont pas pareils, parce qu'il y a eu 10 ans de sanctification. Mais la vie nouvelle, elle, a été plantée en un instant, comme une graine qu'on plante dans la terre. Le brigand qui était crucifié avec Jésus, il est monté sur la croix, il insultait Jésus. Le soir même, il était avec lui dans le paradis. Sans doute que sa vie de criminel l'a amené plus facilement à reconnaître la noirceur de son âme et son besoin d'un sauveur. Peut-être avait-il entendu parler de Jésus, mais c'est sur la croix qu'il est né de nouveau. Lorsque Jésus a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il a eu une expression un peu étrange que je vais lire pour vous. Il a dit « Il t'est difficile de regimber contre des aiguillons ». En fait, Jésus prenait une image agricole, celle d'une bête de somme qu'on fait avancer en lui plantant un bâton pointu dans les fesses et dans l'arrière-train, ou dans les jambes. Et la bête regimbe, ce qui veut dire en fait en français qu'elle résiste, qu'elle se rebiffe ou qu'elle rue dans les brancards. Et sans doute que Jésus voulait dire que depuis un certain temps, par son Esprit Saint, il travaillait dans la conscience de Paul et que Paul lui résistait. Mais c'est sur la route de Damas que Paul est devenu une nouvelle création. Je voudrais maintenant répondre à cette question. Qui produit cette nouvelle naissance? Quelle en est l'origine? Encore une fois, l'analogie avec la naissance physique nous amène à une autre conclusion. Nous ne pouvons pas être les auteurs de notre nouvelle naissance. Qui parmi nous pourrait prétendre avoir joué quelque rôle que ce soit dans sa propre première naissance? Au contraire, on entend souvent les gens dire « J'ai pas demandé à venir au monde ». Sachant très bien qu'ils n'y sont pour rien dans cette première naissance. Nous n'étions pas les auteurs de notre première naissance, nous ne sommes pas non plus les auteurs de la nouvelle naissance. Et la Bible ne nous laisse pas dans le doute sur qui est l'auteur de cette nouvelle naissance. Nous avons lu des passages déjà qui nous répondent à cette question. Et le passage qu'on lit dans Jean chapitre 3 nous dit que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Dans vos Bibles, le mot « esprit » commence avec un grand « e », ce qui signifie qu'il s'agit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est Dieu qui est l'auteur de la nouvelle naissance. On a vu un passage donc, où Dieu réalise une opération chirurgicale, spirituelle, qui consiste à changer notre cœur de pierre en un cœur de chair. Mais il y a d'autres passages de la Bible qui confirment que c'est Dieu qui opère la nouvelle naissance. Par exemple, Pierre, dans sa première lettre, dit ceci, « Dieu nous a régénérés pour une espérance vivante ». L'apôtre Jean, dans sa première lettre, en parlant des chrétiens, utilise 7 fois l'expression « est né de Dieu ». On a vu également un passage de la lettre aux Éphésiens, où il est dit que Dieu a rendu la vie à des hommes qui étaient spirituellement morts. Vous voyez, dans ce passage, il est dit « mais Dieu ». Ce passage commence par la description des chrétiens, de ces personnes avant qu'ils soient chrétiens, qui étaient spirituellement morts. Ils n'ont dit aucun bien, au contraire que du mal, et tout à coup « mais Dieu ». Quel est notre rôle dans la nouvelle naissance? Il est inexistant. Il est inexistant. Il est aussi inexistant que notre rôle dans notre première naissance. Dieu a souverainement décidé de nous donner cette nouvelle naissance. Mesurez-vous bien cela, frères et sœurs. Les récits de la nouvelle naissance qu'on a regardés en témoignent, par exemple, qui aurait imaginé un pire candidat à la nouvelle naissance que Paul, un persécuteur de chrétiens? Et Jésus, en quelque sorte, bloque Paul alors qu'il était sur ce chemin de perdition pour aller arrêter des chrétiens. Il intervient brutalement. C'est lui qui fait faire demi-tour à Paul. C'est pas Paul qui décide de faire demi-tour. Jésus serait pas venu, Paul aurait continué son chemin et il aurait été arrêté des chrétiens. Il y a une autre analogie qui nous éclaire dans la suite du texte de Jean. Et elle se trouve au verset 8. Je relis pour vous le verset 8. « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. » Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il faut d'abord remarquer que dans la langue grecque, le mot esprit et le mot vent, c'est le même mot, c'est le mot pneuma. On a vu que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui opère la nouvelle naissance. Donc ce qui est dit dans ce verset, en fait, du vent est aussi valable pour l'esprit. Le vent vient quand il veut. On sait bien que le vent est entièrement indépendant de l'homme. L'homme ne peut absolument pas contrôler le vent. Il peut éventuellement faire des prévisions météorologiques. Mais il ne peut pas le contrôler. Le vent peut souffler à un endroit et pas à un autre. On ne le contrôle pas. Il en est du même de l'esprit. Il souffle où il veut, dit le texte. Dieu agit par son esprit sur qui il veut. En langage théologique, ça veut dire que Dieu est souverain. L'action du vent peut être très puissante. Entre Noël et Nouvel An, en 99, pour ceux qui ont plus de 20 ans, ou peut-être de 30, entre Noël et Nouvel An, en 99, un coup de vent s'est abattu sur la France. Je me rappelle très bien. Il fut tellement puissant que 17% des arbres de la forêt française furent abattus en quelques heures. Eh bien, vous voyez, il y a une comparaison qui est surprenante. Aux États-Unis, en 1740, il y a eu un grand réveil spirituel dans les années 1740. Au niveau national, ce réveil ne dura que quelques années, mais on estime que 10% des Américains furent nés de nouveau par ce souffle exceptionnel de l'esprit. Le vent souffle où il veut, il souffle avec puissance. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'un des artisans de ce réveil est un homme du nom de George Whitefield. Et cet homme était, en quelque sorte, obsédé par la nouvelle naissance. Et il prêchait toujours sur la nouvelle naissance en disant « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Et un jour, une femme vient le voir et lui dit « Mais pourquoi, frère Whitefield, vous répétez toujours « Il faut que vous naissiez de nouveau » ?» Et lui répondit « Parce qu'il faut que vous naissiez de nouveau ». L'Esprit de Dieu est souverain. Il intervient sur qui il veut et quand il veut. Peut-être que ce que je viens de vous dire vous rend perplexe. Et quelqu'un dira « Mais je croyais qu'on est sauvé par la foi et vous me parlez de nouvelle naissance ?» Quel est le rapport entre la foi et la nouvelle naissance? Et si Dieu fait tout dans la nouvelle naissance, comme le vent qui agit où il veut, quand il veut, qu'est-ce que moi je fais dans mon salut? Bien sûr qu'on est sauvé par la foi. En fait, on peut présenter le salut comme une pièce qui a deux côtés. D'un côté de la pièce, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. Elle est l'œuvre de Dieu, entièrement souveraine, sans l'intervention de l'homme. Et puis l'autre côté de la pièce, qui est directement attachée, c'est la conversion. Et la conversion, c'est la réponse de l'homme à la nouvelle naissance. Et elle se manifeste par deux choses. La repentance, qui consiste à tourner le dos à ses péchés. Et la foi, qui consiste à tourner le regard vers Christ. Que la foi seule sauve, cela ne fait aucun doute. C'est une croyance fondamentale du christianisme biblique, évangélique. Mais la source de la foi se trouve en Dieu. Dans cette même lettre aux Éphésiens qu'on a lue tout à l'heure, Paul dit « Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » La foi, c'est un don de Dieu. Dans une autre lettre, une lettre aux chrétiens de la ville de Philippe, Paul leur dit qu'il leur a été fait grâce de croire en Christ. Philippiens 1, 29. Est-ce que vous voulez que votre foi soit une foi que vous produisez vous-même, avec toute l'inconstance, la faiblesse qui nous caractérise? Ou est-ce que vous voulez que ce soit une foi qui soit donnée par Dieu? Dieu est immuable. Il nous donne une foi qui est immuable et qui est inébranlable. On va regarder un passage dans Actes, au chapitre 16. Et ce passage est une magnifique illustration d'une nouvelle naissance. Paul se trouve donc dans cette ville de Philippe et il cherche en fait à évangéliser. Et au verset 13, on lit ceci. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Donc acte 16, verset 13. Nous nous rendîmes donc hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Verset 15, lorsqu'elle eut été baptisée, j'arrête ici la lecture. Paul est en train de parler à ces femmes. Il leur annonce la parole de Dieu. Et regardez la fin du verset 14. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. C'est exactement la même image que celle qu'on a vue en Ézéchiel, de la transplantation cardiaque spirituelle. Le Seigneur ouvre le cœur de cette femme. Et le Seigneur, c'est-à-dire Dieu. Et pourquoi il ouvre le cœur ? Pour qu'elle soit attentive à la bonne nouvelle annoncée par Paul, et pour qu'elle puisse mettre la foi dans cette bonne nouvelle. Et immédiatement après, on apprend qu'elle fut baptisée, ce qui veut dire qu'elle s'est repentie et qu'elle a mis sa foi en Jésus-Christ. Il a fallu que le Seigneur change le cœur de cette femme pour qu'elle soit capable de recevoir la bonne nouvelle, de croire et d'être sauvée. Et remarquez au passage que cette femme était une femme craignant Dieu, comme Nicodème, une brave femme, pas opposée aux chrétiens. Et même elle allait à un lieu de prière. Mais elle était comme Nicodème, elle avait, même si elle avait une bonne disposition envers la religion, même si elle était morale et même si elle priait, elle avait besoin de la nouvelle naissance. Elle n'était pas encore née de nouveau. Il fallait que Dieu lui ouvre son cœur. Et cette histoire de Lydie m'amène à faire deux remarques à propos de la nouvelle naissance avant de conclure. Tout d'abord, la nouvelle naissance, il va y avoir un baptême aujourd'hui. La nouvelle naissance n'est pas produite par le baptême. Vous voyez que le Seigneur a d'abord ouvert le cœur de Lydie avant qu'elle ne fût baptisée. Le brigand qui s'est converti sur la croix n'a pas été baptisé. On a aussi l'exemple dans le livre des Actes d'un homme qui était le centurion Corneille. Il reçoit le Saint-Esprit avant d'être baptisé. Et puis je vais faire une autre remarque pleine de bon sens. Si tous les gens dans notre pays qui sont baptisés étaient nés de nouveau, je dirais que ça se saurait. J'ai été personnellement baptisé à l'âge de 3 jours dans l'Église catholique. Je suis né le 4 novembre, j'ai été baptisé le 7. Et je peux vous garantir que jusqu'à un âge avancé, j'ai mené une vie complètement contraire à tous les enseignements de la parole. Je n'étais pas né de nouveau. Alors, quelqu'un dira peut-être, oui, mais alors pourquoi il dit qu'il faut qu'on naisse d'eau et d'esprit ? Parce que c'est un argument qui est souvent utilisé pour dire que, oui, il faut un baptême d'eau pour être né de nouveau. Il y a plusieurs réponses solides contre cet argument. L'une d'entre elles se trouve dans le verset 25 d'Ézéchiel qu'on a lu tout à l'heure. Jésus donc a dit en Jean 3, il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. Et en Ézéchiel 36, 25, il dit « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de vos idoles. » Dans la nouvelle naissance, il y a une purification qui est faite. C'est ça quand il dit « Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. » Deuxième chose que je voudrais, très importante que je voudrais noter avant de conclure, c'est le rôle de la parole de Christ dans la nouvelle naissance et la conversion. Paul a été converti par la parole de Christ, prononcée par Christ lui-même. Le brigand a été converti certainement par la parole de Christ, puisque Christ a parlé sur la croix, en la présence de Christ lui-même. Paul parlait à Lydie et lui annonçait certainement la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et le livre des Actes rapporte au deuxième chapitre un sermon que fit l'apôtre Pierre lors de la fête de la Pentecôte. Et ce sermon était centré sur la personne de Christ. Sa résurrection, son exaltation et 3000 personnes furent convertis en l'écoutant. Corneille a été converti en écoutant un sermon de Pierre qui était sur la vie de Christ et ce qu'il avait fait et sa mort sur la croix. Le livre des Actes rapporte la conversion d'un eunuque éthiopien. Il fut converti en lisant un passage d'Ésaïe, Ésaïe 53, le grand passage de l'Ancien Testament sur Christ, enfin, un des grands passages. Le passage étant interprété par l'évangéliste Philippe. Donc la prédication de la parole et particulièrement la prédication de l'œuvre de Christ, sont toujours présentes dans la nouvelle naissance. En fait, la nouvelle naissance et la conversion sont deux événements, qui se produisent de façon quasi instantanée. Ils sont presque identiques dans le temps, en une fraction de seconde peut-être. Oui, nous sommes sauvés par la foi dans la bonne nouvelle de Christ qui nous est annoncée, mais pour que nous soyons capables de recevoir cette bonne nouvelle par la foi, il faut que nous soyons d'abord transformés en profondeur par la nouvelle naissance. Il faut d'abord que nous soyons nés de nouveau. Paul explique dans sa première épître aux Corinthiens qu'un homme qui n'est pas né de nouveau est incapable de comprendre quoi que ce soit la parole de Dieu. Pour lui, c'est de la folie. Si vous prêchez l'évangile à une personne qui n'est pas née de nouveau, elle ne peut pas comprendre. si Dieu n'intervient pas pour ouvrir son cœur. Je vais conclure ici mon message. Êtes-vous né de nouveau ? Mes amis, est-ce que vous êtes né de nouveau ? Il y a certainement beaucoup de personnes parmi nous qui sont nées de nouveau. Vous avez entendu ce message ? Vous vous êtes reconnu dans cette description. Vous pouvez témoigner qu'il y a eu un changement en profondeur dans votre vie. Un changement complet des dispositions de votre cœur envers Dieu, envers ses commandements, envers sa parole, envers le peuple de Dieu et tout particulièrement envers Jésus-Christ. Ce changement s'est produit peut-être il y a longtemps. Vous étiez peut-être adulte. Ou encore plus longtemps, vous étiez enfant, vous ne vous souvenez plus très bien. Mais en tout cas, aujourd'hui, Christ et les choses qu'il concerne sont le centre de votre vie. Est-ce que Christ et les choses qu'il concerne sont le centre de votre vie ? Alors, si cela est vrai et l'application du message pour vous, eh bien, si vous êtes comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, et si vous êtes né de nouveau sans le savoir, mais glorifiez Dieu pour cette nouvelle naissance. Et même si vous le saviez déjà, continuez à le faire, parce que c'est lui qui nous sauve. Le salut vient de l'Éternel. C'est Dieu qui nous sauve, personne d'autre. C'est pas nous. Nous-mêmes, c'est pas des prêtres. C'est Dieu qui nous sauve. C'est pas des évangélistes. Il y a peut-être des personnes qui ont écouté ce message. Et je voudrais tout particulièrement passer du temps pour leur parler. Elles ont écouté ce message, elles ont reconnu qu'il n'y a pas en elles cette nouvelle naissance. Peut-être que vous êtes des gens comme Nicodème ou Lydie, vous êtes bien disposés envers Dieu, mais vous ne le connaissez pas vraiment. Vous avez écouté ce message et vous ressentez en vous le besoin d'être une nouvelle création en Jésus-Christ. Vous connaissez votre âme, vous savez bien qu'elle est noire. Vous êtes dans l'angoisse sur votre destinée éternelle. Sans Jésus-Christ, vous aimeriez, comme dit le passage d'Ézéchiel, que Dieu réponde sur vous une eau pure et qui vous purifie toutes vos souillures. Oh, comme vous aimeriez être né de nouveau. Mais comment l'obtenir ? Comment obtenir cette nouvelle naissance si Dieu la donne à qui il veut et s'il est libre comme le vent ? Et s'il est souverain, pourquoi me donnerait-il la nouvelle naissance à moi ? Alors je vais vous donner le conseil d'un prédicateur du XVIIe siècle, un court extrait d'une exhortation qu'il donne sur ce sujet à des personnes qui voudraient avoir la nouvelle naissance. Et voilà ce qu'il dit. « C'est Dieu qui donne la nouvelle naissance, alors faites appel à Dieu. Implorez Dieu, suppliez Dieu. Dieu fait que je sois né de nouveau. » Souffle la vie dans mon âme qui est morte. Faites le siège du ciel avec vos prières et demandez à Dieu de vous donner la nouvelle naissance. » Fin de citation. Jésus nous a exhortés très clairement à prier son Père avec insistance, de façon importune, c'est-à-dire en n'hésitant pas à le déranger. Il a pris l'image de quelqu'un qui viendrait au milieu de la nuit chez vous, frapper à votre porte de toutes ses forces pour vous demander du pain. Alors si vous êtes dit de faire ça, faites-le. Dans Luc, chapitre 11, Jésus dit ceci, c'est magnifique. « Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. N'ayez pas peur. » C'est moi qui parle maintenant, c'est plus Jésus. « N'ayez pas peur de le déranger. » Parce qu'est-ce qu'il peut avoir une meilleure demande à Dieu que de lui demander quelque chose que lui seul possède et qu'il a tellement envie de donner, la vie éternelle. Je continue ce passage de Luc chapitre 11. « Car quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. » Le problème, c'est qu'on ne demande pas. « Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Au lieu d'un poisson, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchant, comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Mais le Saint-Esprit, recevoir le Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance, puisqu'à la nouvelle naissance, on reçoit le Saint-Esprit. Si vous avez cette recherche en vous de la nouvelle naissance, regardez à Jésus-Christ. Regardez à Jésus-Christ. car il est celui qui suscite la foi. Un autre passage qui dit qu'il est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il faut regarder à Jésus-Christ, étudier les magnifiques promesses de vie éternelle par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, dans la bonne nouvelle de l'Évangile. Et si vous en avez assez de ce lourd fardeau, de vos péchés et de toutes ses conséquences, alors allez à Christ, car il vous demande de le faire. Et il est bon. Christ a toujours été bon. Il n'a jamais rejeté des personnes qui venaient avec lui d'un cœur sincère. Jamais. Il a rejeté les pharisiens qui étaient remplis de haine à son égard et envers le Saint-Esprit. Mais jamais il a rejeté quelqu'un qui venait le voir avec sincérité. À cet homme qui doutait, et qui venait le voir et qui lui disait « Seigneur, je crois. Mais viens au secours de mon incrédulité. » Il a guéri son fils. Il a jamais rejeté personne. Écoutez ce que Jésus-Christ vous dit. Si vous recherchez une nouvelle naissance, si aujourd'hui vous êtes dans votre cœur saisi par le doute, suis-je né de nouveau, ou vous savez que vous ne l'êtes pas, vous aimeriez l'être, alors le Seigneur travaille en vous. Et voilà ce qu'il vous dit. Il vous dit d'aller à Jésus. Et Jésus vous dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués et chargés. Si vous êtes fatigués et chargés par ce poids de doute, de peur, d'insatisfaction de vous-même, parce que vous savez qui vous êtes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Si c'est dans cet état d'esprit que vous allez à lui, il ne vous rejettera pas. Il a promis que tous ceux que le Père lui donne viendront à lui et qu'il ne rejette aucun de ceux qui viennent à lui. Vous pouvez le faire maintenant, vous pouvez le faire plus tard, au moment où le Seigneur travaillera dans votre cœur. Mais rappelez-vous cela, c'est lui qui donne le salut. Et il ne rejette personne qui vient à lui. Enfin, peut-être que vous avez écouté ce message et que ça vous est passé au-dessus de la tête. Ça vous dépasse, tout ça vous ennuie, vous n'y croyez pas. Alors, avec tous mes frères et sœurs ici qui croient en Jésus-Christ, qui ont eu la nouvelle naissance, je peux, par amour et par compassion, on ne peut que vous mettre solennellement en garde, car vous êtes en grand danger. Vous êtes en grand danger. Le jour vient où Dieu, le frère l'a rappelé tout à l'heure, le jour vient où Dieu va juger chacun d'entre nous. Et ce moment, c'est lorsque nous mourrons. La parole dit qu'il est donné à tout homme de mourir, et alors vient le jugement. Et Dieu ne jugera pas par méchanceté, par sadisme. Dieu fera ce que vous demandez, que justice soit faite. Il fera la justice. Il la fera pour tous les péchés des hommes, y compris les vôtres. Et vous comparaîtrez devant un juge parfait qui connaît tout de vous. Et qui jugera d'une façon parfaitement juste pour toutes les mauvaises choses que vous avez pu faire, les mauvaises paroles que vous avez pu dire, les mauvaises pensées que vous avez pu avoir. Vous ne voulez pas vous trouver devant ce juge sans être né de nouveau. Solennellement, je vous exhorte. Faites attention, vous regretterez amèrement de ne pas être né de nouveau. Même Jean-Paul Sartre, cet athée parmi les athées, savait que Dieu le regarde tout le temps. Et c'est pour ça qu'il le rejetait. Et vous savez que Dieu vous regarde, vous savez qu'il existe. Oui, vous regretterez amèrement de ne pas être de nouveau et de ne pas avoir mis votre confiance en Jésus-Christ. Je vous en supplie, je vous en conjure, qui que vous soyez, écoutez cette exhortation qui vient de Jésus lui-même. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Je termine en citant quelques mots du prédicateur Spurgeon. Voici les flammes de l'enfer. Voulez-vous leur échapper? Il faut que vous naissiez de nouveau. Voici les gloires célestes qui brillent dans leur propre lumière. Voulez-vous les goûter? Il faut que vous naissiez de nouveau. Voici la paix et la joie du croyant. Voulez-vous les avoir? Il faut que vous naissiez de nouveau. Ah Seigneur, donne-moi Christ ou bien je meurs. Je tiens le marteau de la porte de ta miséricorde. Et il faut que cette porte s'ouvre. Je ne te laisserai pas partir, Seigneur, avant que tu m'aies béni, comme dit Jacob. Il faut que vous naissiez de nouveau. Prions. Seigneur Tout-Puissant, tu connais les cœurs de chacun d'entre nous. À certains seigneurs, tu as ouvert le cœur. Par cette voie que tu as ouvert en eux, Seigneur, répands en abondance toute cette grâce, tout cet amour dont tu fais preuve, toute ta sainteté. Seigneur, qu'afin que nous te glorifions avec joie, que nous soyons plus près de toi, comme disait le cantique que nous avons chanté tout à l'heure, et que nous passions notre vie sur cette terre en préparant l'éternité à te glorifier. Et Seigneur, pour ceux qui doutent, qui te cherchent, Seigneur, puisses-tu, Seigneur, effectivement leur donner une nouvelle naissance, les amener vers toi, le bon berger. Et pour ceux, Seigneur, qui te rejettent, puisses-tu mettre dans leur cœur une peur et une conviction de péché, leur montrer qui tu es, ta justice, ta sainteté, qui ils sont, afin, Seigneur, qu'ils soient